17h30 sur les ondes de CKRL, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour parler bande dessinée. Ce sera d'ailleurs notre principal et unique sujet pour la prochaine heure. Plusieurs regards qui seront portés à différents axes, différents volumes, différents types de volumes également. Notamment, deuxième moitié, on aura le plaisir de s'entretenir avec Jean-Marc Pacelli qui, en compagnie de Victor Brideau, nous a offert récemment un livre qui s'appelle Ta BD en 9 étapes, donc un livre qui vise à apprendre, à montrer, à présenter comment faire une BD, mais pas au niveau du dessin, au niveau plutôt du récit, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant d'ailleurs dans ce volume. Il y aura également tout à l'heure Francis Desharnais qui sera avec nous pour parler du deuxième tome, que j'attendais d'ailleurs avec une vive impatience, deuxième tome de Motel Galactique qui est effectué en compagnie de Pierre Bouchard. Alors c'est chez Pow Pow et on reste dans le sci-fi du terroir à l'image du premier tome. Également, on va parler de bande dessinée et musique en compagnie de Michel Giguère. Alors, dans le cadre, évidemment, de ces rendez-vous de la bande dessinée. Donc, il nous offre mercredi prochain une rencontre autour de cette thématique-là, les liens, les ponts à faire entre la BD et la musique. Et dans quelques instants, on va jaser avec Anne-Marie Olivier de ses commentaires BD pour cette semaine. Alors, c'est le menu pour aujourd'hui et on vous rappelle évidemment que vous pouvez aussi nous suivre sur le blog de l'émission lavieenbd.wordpress.com. Il y a les podcasts des émissions précédentes. Également, vous pouvez nous suivre sur Facebook lavieenbd-ckrl. Et comme à chaque semaine, une sélection musicale, un artiste qui va nous accompagner au fil de l'émission. Cette semaine, il s'agit de Format avec son album Origins. On écoute un premier extrait, Tetra. Vous êtes toujours donc, je le rappelle, à La Vie en BD et on va se diriger vers les premiers commentaires BD, ceux d'Anne-Marie Olivier, qui est du côté de chez Phylactère, évidemment. Et d'ailleurs, petite mention au passage, si vous avez l'occasion d'y faire un tour, vous allez y trouver quand même pas mal de gens jusqu'à 19h aujourd'hui, puisque c'est le lancement aujourd'hui, donc du volume 2 de la revue, allons-y avec ce terme-là, de la revue Zidara 9, donc revue collective, avec quand même pas mal d'auteurs. On en avait parlé l'automne dernier, il y avait deux collaborateurs, et cette fois-ci, ils sont à peu près 6, si ma mémoire est bonne. On aura probablement l'occasion de jeter un coup d'œil, d'ailleurs, à cet ouvrage, mais pour l'instant, ce soir, donc du côté de la librairie Phylactère, c'est le lancement donc de ce volume 2 jusqu'à 19h. Anne-Marie Olivier, bonjour.
Bonjour, Raymond.
Alors, ça va bien, ça brasse pas mal, j'imagine, de ton côté.
Ça commence, là, il y a du monde, là, ça vient d'arriver.
Et ben, comme à l'habitude, donc, quelques regards sur la bande dessinée, sur des nouveautés.
Oui.
Deux volumes pour aujourd'hui, Le Dernier Homme, série d'extraordinaires comédies du quotidien, et pour commencer, Le Fantôme d'Anya de Vera Brosgol.
Voilà, donc, nouveauté de la semaine, en fait, et je commence donc par Le Fantôme d'Anya, qui est une BD jeunesse, adolescente, jeune adulte, à peu près, si on peut s'exprimer comme ça. Alors, cette bande dessinée-là raconte l'histoire d'une jeune fille, une jeune adolescente immigrée russe qui tente a fait tous les efforts possibles pour oublier en fait qu'elle est émigrée et elle essaie vraiment de s'intégrer donc dans sa nouvelle société aux États-Unis. Et elle n'a pas vraiment d'amis, elle se trouve pas très agréable à regarder aussi. C'est une adolescente très insécure, ce qui est pas mal le lot de toutes les adolescentes. Et elle va rencontrer lors d'une chute dans le fond d'un puits un squelette avec lequel est rattaché un fantôme d'une jeune fille décédée il y a plus de 90 ans. Et elle se dit, bon, maintenant qu'elle n'a pas à avoir d'amis, pourquoi pas avoir une amie fantôme? Sauf que cette petite jeune fille fantôme qui a l'air tout à fait innocente au premier abord ne laissera pas échapper sa nouvelle amie et seule amie depuis vraiment beaucoup d'années.
Alors, enfin, on s'en va un peu. C'est un petit côté fantastique, mais ancré dans des tribulations plus quotidiennes, dans les petits drames du quotidien.
Oui, c'est vraiment les thèmes abordés dans cette bande dessinée-là, c'est sûr que c'est vraiment l'intégration, l'importance du regard des autres et de la famille particulièrement qui sont abordés. On vise particulièrement, par exemple, des adolescentes et des jeunes adultes, mais par contre, ce qui est intéressant dans cette bande dessinée-là, c'est qu'on prend un personnage qui n'est pas nécessairement lisse. Ce que j'entends, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Elle boit de l'alcool, elle fume et tout ça. Ils n'ont pas nécessairement un langage aussi là très fini. Donc, ça donne aussi une couleur et un réalisme à cette bande dessinée-là, tout à fait.
Et j'imagine qu'en tant pour le lecteur, ça permet aussi de faire des liens avec son univers, avec le langage qu'il parle, etc., etc.
Oui, le lecteur peut vraiment s'identifier au personnage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le dessin en noir et blanc est très, très, très pointu. C'est un dessin qui parle beaucoup de lui-même aussi, donc il y a des images très fortes et quand il n'y a pas de dialogue, le dessin prend le relais. Donc c'est une BD qui est très 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 bien construite. Aussi important de dire que cette auteure-là, Vera Brosgol, c'est son premier livre, donc et elle est elle-même une immigrée d'origine russe. Donc, moi, je donne vraiment une bonne note pour cette bande dessinée-là. C'est le genre de BD, quand j'avais 12-13 ans, que j'aurais beaucoup aimé avoir. Donc, une très bonne bande dessinée.
Alors, c'est Le Fantôme d'Anya, donc de Vera Brosgol. C'est à la courte échelle, d'ailleurs.
Oui.
C'est qui font aussi dans la BD.
Ben qui commence en fait, ils viennent de commencer une collection sur la bande dessinée et il y a plusieurs belles surprises à venir, je pense.
Alors, à suivre de ce côté. Et Anne-Marie, deuxième titre pour ta chronique cette semaine, Le Dernier Homme, c'est dans la série L'Extraordinaire Comédie du Quotidien, c'est de Grégory Mardon.
Voilà, donc c'est le troisième volume qui va clore justement la trilogie. Par contre, on peut les lire indépendamment un de l'autre, donc ça, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc, pour la petite histoire, on a personnage central de Jean-Pierre, célibataire, qui tente de se donner des moyens pour rencontrer l'âme-sœur dans un Paris tout à fait romantique. Et lui se dit, bon, ben pourquoi pas en profiter tant qu'être dans la ville de l'amour. Et donc, ça, Jean-Pierre va se mettre à pimenter un peu son quotidien et de s'offrir de multiples possibilités pour rencontrer des femmes sans prendre trop de risques. Alors, la méthode qu'il met au point, c'est qu'il se met à glisser plein de petites cartes avec un petit mot manuscrit dans les poches ou des sacoches de femmes sexy qu'il rencontre. Et il dit sur ce message qu'il n'a pas osé les aborder, mais qu'elles peuvent le contacter. Et après ça, il attend la récolte. Donc, c'est assez... c'est un peu loser, en fait,
oui.
comme type d'approche. C'est sûr, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait de ce sujet de la quête de l'amour décortiqué maintes et maintes fois, C'est une BD qui est vraiment divertissante, en fait, puis qui est pas du tout quétaine, où on aborde quand même une problématique qui est pas évidente, c'est-à-dire la séduction. Ça n'est pas donné à tout le monde, et lui prend le moyen, bon, qui lui donne, à son avis, le plus de rentabilité pour le minimum de risque.
Effectivement, et toute cette réflexion-là aussi, dans le fond, à l'intérieur de la ville, l'idée de la solitude, etc. Et tout ça, c'est rendu avec rythme. Est-ce qu'il y a de quoi, justement, développer un bon récit à partir de cette prémisse-là?
Oui, en fait, le thème, donc, comme je disais, qui est vraiment, bon, l'accueil de l'amour et tout ça, il en reste pas moins que la mise en scène de cette bande dessinée-là, elle est vraiment très juste. Puis on passe d'une narration visuelle, encore là, très, très claire. C'est vraiment limpide. Tout est cohérent, c'est très moderne. Puis le ton humoristique, légèrement grinçant, est vraiment là. C'est sûr qu'on a des fois un petit malaise à voir ce personnage-là qui se débat avec une timidité maladive. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est sûr que l'amour triomphe et l'imprévu, finalement, n'en reste pas moins une méthode très efficace pour tomber sur la personne qui va partager notre vie. Donc, une BD tout en couleurs qui est vraiment très dynamique, justement, au niveau des couleurs. C'est un trait qui est assez simple, légèrement expressionniste. Il y a des beaux points de vue aussi. Donc, moi, j'ai adoré cette bande dessinée-là que je ne connaissais pas avant de la lire cette semaine. Et je la recommande chaudement.
Et à la limite, ça donne envie d'aller voir aussi les deux premiers tomes.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, à découvrir, donc, Le dernier homme dans la série L'extraordinaire comédie du quotidien, c'est de Grégory Mardon chez Dupuis.
Oui.
Anne-Marie Olivier, merci beaucoup.
Merci Raymond.
À la prochaine.
Oui, bonne soirée.
Alors voilà pour les commentaires BD, donc je le rappelle, d'Anne-Marie Olivier qui est libraire chez Phylactère. On repart avec un autre petit extrait de Format, la pièce Spun Gold, toujours ici à CKRL. Et voilà, petit extrait donc de Format, et je sais pas, je trouvais que ça faisait spatial, et donc ce serait ta point nommé pour notre prochain segment qui sera consacré à la BD Motel Galactique 2, le folklore contre-attaque. Alors, des liens à faire avec plusieurs séries d'ailleurs de science-fiction, on y viendra tout à l'heure, mais pour l'instant, on a le plaisir d'avoir avec nous donc les deux auteurs, Francis Desharnais et Pierre Bouchard. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ben, en fait, Motel Galactique 2, après la belle réception, je pense, qu'a eu le premier, est-ce que c'est un peu justement ça qui vous a amené à faire le deuxième, ou est-ce que le deuxième était déjà un peu planifié, mais pas nécessairement assumé jusqu'à un certain point?
Ben, planifié, je pense qu'il l'était déjà au lancement au Salon du Livre l'année passée. Puis après, ben, le reste du bonus, là, la réception, on était contents, donc confirmé notre éditeur, je pense, à vouloir aller de l'avant pour un deuxième tome.
Ouais, ben on avait l'idée de la trilogie nous intéressait beaucoup, là, on a commencé à développer là-dessus assez tôt, là. Donc, ça a craqué là, ouais. Francis de continuer là, dans la même veine.
Ouais. Et surtout, quand on parle de science-fiction, en fait, tout se décline, j'ai l'impression, ces temps-ci, dans les archétypes en trilogie avec Seigneur des Anneaux, Star Wars. Bon, si on va dans différents styles, donc ça devient un peu incontournable dans une série qui joue justement avec ces archétypes-là de la science-fiction.
Ben, c'est ça. Toute bonne série de science-fiction vient par batch de trois, fait que on n'allait pas faire exception. Là.
Alors, dans le fond, le premier album, si on fait une analyse pointue, c'était un peu la genèse du héros Pierre Bouchard. Le deuxième, c'est un peu sa confirmation. Peut-être, en fait, il passe de Kidam à héros sauveur de galaxie.
Non, rien de moins.
Rien de moins.
Exactement.
Un fantasme non assouvi. Et justement, en fait, ben, parlons un peu du volume. Comment on part du deuxième tome, donc qui était beaucoup axé sur l'histoire du clone, donc un peu d'anticipation. Et dans la deuxième, c'est beaucoup plus axé sur l'action, sur le combat entre les forces du bien et les forces du mal.
Ben, en fait, l'idée du deux est venue quand... En fait, à chaque festival, la bande dessinée, à la fin, on fait un genre de brainstorm sur ce que sera le prochain tome. Puis ce coup-ci, on s'était dit, pour le tome 2, on s'était dit, il faudrait essayer de savoir comment ça se fait que l'univers au complet parle Joal. Puis bon, ben, c'est à partir de là que les idées ont déboulé. Là.
Un peu de cette idée justement du folklore québécois qui devient un peu omniprésent, et j'avais bien aimé en fait au bout du compte aussi la citation qui dans le premier volume établissait bien l'univers, l'idée que le futur sera pas nécessairement plus intelligent que le présent.
Ben ouais, je pense que c'est encore vrai là.
Ça c'est vrai de tout le temps.
Et comment se construit un peu peut-être au niveau scénario, dessin, tu disais Francis, c'était vraiment fait un brainstorm après festival, dans le fond après le lancement, on voit un peu où on pourrait aller. Est-ce que c'est beaucoup un travail à quatre mains ou une fois que les idées sont faites, tu pars avec ça puis ensuite tu soumets un scénario à Pierre ou
Ouais, ben si je regarde comme là, on a déjà commencé à parler du 3, puis on a sorti plein d'idées dans l'auto de notre éditeur, puis entre Montréal puis Québec, puis fait que là, tu sais, j'ai déjà les idées de base, que les idées de tout le monde un peu, fait que là je vais partir de ça, je vais faire un genre de ben tu sais, je vais monter le scénario, mais moi la façon que j'écris mon scénario, j'essaie de laisser le plus d'espace possible à Pierre pour faire soit le découpage et rajouter une couche de joke.
Puis en plus on a pensé à boucler toute cette histoire là ben en fait on a pensé, c'est arrivé tout seul là, ça s'est bien bouclé, puis on est très content, on donnera pas les punchs, mais on est vraiment content là
de ce que ça vient.
Oui, parce que dans le fond, il faut aussi ça va en augmentant un peu en termes de lutte galactique. Donc, j'imagine que le crescendo se poursuit sans dévoiler les détails. Non? Oui? Non?
Bon, on dévoilera pas de détails.
On dévoilera pas de détails. Non, pas de scoop ici, ce soir.
On peut dire qu'il va être jaune. Oui, peut ça. Dire la classe. Ça peut donner un indice.
Oui.
Mais justement, en fait, l'idée, c'est un peu de jouer avec des incontournables. Je parle beaucoup de Star Wars depuis le début, mais ça me semble être un peu le modèle, du moins en termes de vilains. On a été joué un peu avec les éléments, justement, plus de cet univers-là dans le tome 2 là, de Motel Galactique.
Ouais, ben, ouais, tout à fait. Parce que, ben, pour ma part, je voulais ce tome 2-là plus épique. Donc, c'est avec justement là, comment ça que l'univers parle Joal, tout ça. Donc, qui dit épique dit grande bataille et dit les grandes forces du bien contre les grandes forces du mal et blablabla. Bla, bla. Puis, ça prend un super méchant. Fait que des super méchants dans la science-fiction, bon, il y en a plusieurs, mais celui qui torche le plus, ben, c'est quand même Darth Vader. T'sais. Fait que, fait qu'on est comme partie de lui pour créer Darth Brador.
Darth Brador qui est...
En même temps, dans notre imaginaire collectif là, de non-geek, parce qu'on est pas, on connaît la science-fiction comme un peu tout le monde, donc c'est les lieux communs qui sortent. Là, puis,
ouais,
moi, quand je dessine aussi, je ne vais pas nécessairement aller voir sur Internet Darth Brador, comment qu'il est, ou Yoda. On y va aussi, je dessine encore dans l'imaginaire que j'ai là, instantané. Là.
C'est ça. Tu crées que ça marche bien.
Oui, puis en même temps, de toute façon, l'univers que vous créez est tellement un côté absurde, un côté de n'importe quoi, mais cohérent, que dans le fond, ça fonctionne aussi. On s'attend pas à ce que ça soit exactement, mais on s'attend à ce que ce soit vraiment votre lecture, dans le fond, de ces archétypes-là, de ces figures-là, puis interprétées à la sauce Pierre Bouchard, à la sauce Francis Dernay, la sauce Motel Galactique.
Oui, c'est ça. Ben, j'espère que les lecteurs ont ce plaisir-là de voir comment on mélange tout ça avec la culture québécoise, puis...
Parce que le Darth Brador, justement, c'est un peu Darth Vader, mais métissé avec Jean-Paul Bello, avec Séraphin, avec la mère d'Aurore. Je veux dire, en soi, ça, ça donne le ton du personnage de manière claire.
Ben ouais, ben tu prends Darth Vader puis tu le mets plus méchant.
Et comment on reçoit un peu, parce que Pierre Francis disait, on va avec quelque chose de plus épique avec ce tome-là. Comment on reçoit un peu en sachant qu'il va falloir faire une armée péquiste, qu'il va falloir faire des combats quand même plus accentués un peu là.
Ouais, c'est ça. On soupire un peu. il y a quelques pages avec beaucoup de monde là, mais vous noterez qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y a une grosse bataille, on la voit de loin, ça, avec des onomatopées.
Ouais, je t'en ai quand même évité, là, tu sais.
Ouais. Ouais, je pense j'aurais pu faire beaucoup de pages de mais c'est pas sûr non, le but non plus de faire des batailles, des longues batailles, là.
Non, c'est ça.
Ouais. Mais il y a plus de personnages, il y a plus de travail, là, dans ce livre-là. Ouais. C'est amusant.
Parce qu'en même temps, c'est ce qui vient aussi, j'ai l'impression, distinguer la série des Motels Galactiques, c'est à travers le style graphique qui est pas celui qu'on s'attendrait d'une série de science-fiction du tout. En fait, c'est plutôt...
Non, ça, ouais, c'est très décalé dans le dessin, dans l'humour, dans tout. Là.
Ouais, mais en même temps, il était quand même temps que la science-fiction aille là aussi, tu sais. Je veux dire, pourquoi que la science-fiction, ça devrait tout le temps être une espèce de beau dessin léché avec des belles ombres puis des beaux dégradés puis
ouais, c'est ça,
puis
ouais.
Tout ça, un moment donné, je veux dire, on sait pas c'est quoi le futur, là. Personne qui le sait. Là. Moi, je pense qu'on est le plus proche de toute la gang, là.
Et en même temps, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que ça me donnait l'impression que c'était pour les deux, en fait, sortir de vos zones de confort dans ce type de récit-là, dans ce type de décis et de récit-là à dessiner aussi. Le lecteur aussi sort un peu de sa zone de confort, comme on le disait, mais pour vous aussi dans la création, est-ce que c'est un peu ça?
Ben, je dirais oui, surtout que, en fait, ça explique un peu la genèse du projet. Parce qu'on parlait avec Pierre, moi je suis un gros fan de L'Île aux ours, la bande dessinée qui avait sorti chez Mécanique Générale. Puis on s'était dit à un moment donné, on parlait justement de cette notion-là de zone de confort, à se demander c'est quoi, tu sais. Puis on se dit, ah ben c'est peut-être de faire un style qui est très différent du nôtre. Puis là, on s'est comme dit à Black, ah ben dans le cas de Pierre, ça serait de faire de la science-fiction, tu sais, vu que L'Île aux ours, c'est de l'autofiction qui se passe en région, tu sais. Fait que je dis, ah tiens, je vais essayer de t'écrire de quoi, puis bon ben c'est parti comme ça là.
Et puis c'est devenu de l'autofiction dans l'espace, L'Île aux ours transposé mais dans l'univers dans le fond.
Ouais. Ben moi pour la zone de confort aussi, de travailler avec un scénariste la première fois, donc c'est tout ce que j'ai fait avant, c'était des petites histoires que je faisais moi-même, le pousser là, sans scénario, rien. Là, j'ai un scénario et puis je dois le reproduire et puis tout ça là.
Et ça change beaucoup, j'imagine, la dynamique de travail aussi. Hein, c'est...
Ouais, c'est ça. C'est pas le même genre de travail. C'est plus. C'est plus du travail. de prendre le scénario et puis de travailler ça là, au jour le jour. Là, plus que je fais d'habitude. Là.
Puis justement, faut j'imagine aussi que tu suives après ça, que le dialogue se poursuit avec le scénariste pendant que le dessin est enclenché.
Pour ça, on n'a pas. C'est pas trop compliqué. Là. À la fin, je vais tout terminer les dessins, puis Francis et puis l'éditeur va regarder qu'est-ce qui fonctionne pas. Là. En fait, comme un lecteur ferait, là, regarde ça, ils vont dire ça, tel dessin, ça marche pas, la bulle descend ça, des trucs comme ça. Puis après ça. On travaille les corrections, comme ça, c'est pas trop... Ça, c'est simple.
Exactement.
Puis le tome 2, qui est moins axé de narration aussi, justement, côté très narré du premier, beaucoup de d'éléments de dialogue à illustrer, si on peut dire. Le deuxième, où là, on se retrouve un peu plus avec des séquences carrément dialoguées, plus traditionnelles, entre guillemets. Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on avait envie de progresser un peu parce que les bases de l'univers étaient établies? Donc là, on peut amener la BD plus dans ce type de dynamique.
Ben, dans le premier tome, c'est une évolution du travail, parce que dans le premier tome, la première histoire qui est sortie, Pierre l'avait faite pour un 24 heures de la BD. Puis moi, j'avais comme écrit, c'était quasiment juste un texte, il n'y avait à peu près pas de découpage, il me semble. Puis lui, il l'avait découpé à sa façon, puis c'était parfait. C'est comme il est sorti dans la BD, là. On n'a rien changé à ça, ou à peu près pas. Mais après ça, plus l'histoire avançait, plus on se rendait compte que moi, ben là, faut raconter une histoire qui se tient. Puis à partir de ce moment-là, ben les séquences, quand on regarde le tome 1, les séquences deviennent plus découpées, si on veut. Mm-hmm. Puis là, ben pour le tome 2, ben il me semble, en tout cas, Pierre, ça avait de l'air à pas trop te poser problème que ce soit plus défini comme ça.
Non, j'écoute bien.
On a continué comme ça pour le tome 2, c'est-à-dire j'étais peut-être un petit peu plus directif au niveau du découpage. Je disais, bon, ben, dans ta page, il faut qu'il y ait, tu sais, en premier tel élément, deuxième tel élément, troisième tel élément avec tel dialogue. Mais après, c'est lui qui détermine visuellement comment c'est rendu tout ça, là.
Et on parlait de zone de confort tout à l'heure, mais reste qu'aussi, j'imagine, le premier tome, c'était un peu aussi le premier contact avec cet univers-là, de bâtir l'univers et le reste. Donc, le deuxième, il s'agit simplement, dans le fond, de revenir correctement à cet univers-là, mais reste que c'est quelque chose que vous avez déjà un peu expérimenté. Donc, est-ce qu'il y avait un peu plus d'aisance aussi à se lancer dans cette création-là? Puis, un peu comme il va, j'imagine, en avoir encore plus d'aisance dans le troisième tome?
Je pense que oui, ça, il n'y a pas eu trop, ça n'a pas été un casse-tête, là, ça n'a pas été, ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ça a été assez naturel, puis assez, je trouve, là, je pense. Moi, j'ai pas eu de misère, là, toi.
Non, ouais, c'est...
Parce qu'en même temps, je me dis, des fois, quand on a aussi créé un premier tome, il a été bien apprécié des lecteurs, lectrices. Donc, il y a quand même aussi de la pression à faire un deuxième tome qui est aussi bon que le premier, qui est aussi réussi que le premier, dépasser un peu l'effet de surprise, peut-être, qui a été généré avec le premier tome.
Oui, mais en même temps, je pense que c'est quand même le genre de livre que, justement, tu as un univers bien défini, tu as un personnage attachant, on va dire. Fait que je pense que justement il se décline bien en série cet univers-là parce que justement t'as envie d'en savoir d'autres puis tu sens dans le premier que chaque planète a son univers qui lui est propre puis bon l'univers au complet il peut avoir bien du stock dedans fait que tu sens je pense qu'à la lecture du premier que c'est pas fini là je veux dire il reste encore bien des trucs à explorer là-dedans fait que je pense qu'avec en arrivant avec des suites ça prolonge le plaisir.
Ouais, avec tous les personnages que Francis a fait rentrer dans le deuxième, là, c'est il y en a beaucoup aussi. On pourrait faire un livre seulement avec Parisoda ou avec Luc.
Ouais.
Et quand tu reçois un personnage, Pierre, est-ce que c'est beaucoup en fait la création qui se fait beaucoup en amont, essayer de trouver de quelle manière on va le créer, le représenter un peu en croquis, ensuite tu le passes comment ça se passe un peu la création aussi de cet univers-là au niveau visuel?
Moi j'aime beaucoup le design de personnage. Ça va être assez instantané. Francis peut donner des idées, des trucs comme ça. Après, mais ça commence bien. Là, je peux faire quelques essais. Là, je ferai pas des pages et des pages et des pages de personnages. D'habitude, ça marche assez bien. Là, comme Luc, il fallait que ça ressemble à notre éditeur. Je l'ai fait une fois. Ma copine l'a regardé. Fait bon, il ressemble pas tant que ça. Je l'ai refait. J'ai repris une photo de Luc. Je vais voir, ok, c'est comme ça. Finalement, c'est ça. J'ai fini par faire Luc. Et puis, Pierre Bouchard, l'original aussi, était dans le deuxième. Là, il était rasé et puis tout ça. Là, donc, c'est un autre personnage. Fait un peu plus...
Et c'est un peu en continuité, j'ai l'impression, avec ce que tu fais côté art visuel aussi. Donc, avec les crayonnés, les textures, le côté un peu garoché, entre guillemets, à tout ça. Là.
Ben, en fait, moi, je suis content parce que ça, je fais de la peinture et... J'ai comme l'impression que je boucle quelque chose avec la BD. À un moment donné, je me dis, je fais de la BD, de la peinture, puis essayer de séparer les deux, ou je sais pas, mais là, non, là, je trouve super à l'aise là-dedans, puis avec le 3 aussi, là, on a quelque chose, et puis en plus, je peux intégrer mes ours dans, qui me viennent dans mes BD, donc, oui. je trouve ça super.
Alors, pour ceux qui ont lu le premier, le deuxième va sûrement vous satisfaire. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le premier, lisez le premier et le deuxième. Alors, Motel Galactique 2, le folklore contre-attaque, c'est de Francis Desharnais et Pierre Bouchard, c'est chez Pow Pow. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Et au plaisir. Alors, voilà, on prend une courte pause à venir. Ta BD en 9 étapes et également Michel Giguère nous parle BD et musique.
Passionné de vélo, découvrez la boutique Le Pédalier, le marchand de quartier au service personnalisé. Depuis 25 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux. C'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 boulevard Bastien, Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734, pédalier.ca.
Explosion imminent. Evacuate the facility immediately.
Les jeudis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel.
Today's security code is 5334118.
Mezzanine, seulement au 89.1. Programmation d'été. Qu'est-ce que j'écris pour inviter les gens à soumettre des projets?
Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances et découvertes musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2012.
C'est bon, ça. Là, faut que j'explique comment faire.
Rendez-vous dans la section Proposer une émission de notre site Internet et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 9 mai.
C'est simple, mais ça dit ce que ça a à dire. Ah, je devrais peut-être parler des nouveaux crus aussi.
CKRL est aussi à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveaux crus, les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. J'attends vos projets.
Enter.
Vous désirez devenir membre du 89.1? Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, bénéficiez de nombreux rabais de nos précieux annonceurs. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat.
89.1, Québec. CKRL.
Cette soirée vous est présentée par La Barberie.
Pourquoi La Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille? Parce que nous sommes différents. En vente chez tous les bons marchands.
Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30 dans le cadre de l'émission La vie en BD. Et évidemment, la BD, il y a pas de recette miracle pour l'apprendre, mais il y a des recettes quand même qui peuvent donner un fier coup de pouce pour appréhender quand on ne connaît pas le style, pour prendre conscience de tout ce que ça implique également, créer une BD. Et au studio Première Ligne, il y a Victor Brideau et Jean-Marc Pacelli qui ont proposé récemment le volume Ta BD en 9 étapes, donc pour l'apprentissage de la création en bande dessinée. Et pour en parler, ben, l'un des auteurs est avec nous au bout du fil. Jean-Marc Pacelli, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ben, ça va très bien, toi?
Oui, merci.
Et d'abord, en fait, qu'est-ce qui a fait naître ce projet-là? Je crois que c'est basé un peu sur les cours que donne Victor Brideau en BD, justement.
Oui, exactement. En fait, c'est calqué sur son cours. Lui, il m'a approché parce que ça fait depuis environ l'an 2000 qu'il donne des cours à la ville de Gatineau. Et à chaque année, il donnait des photocopies à ses étudiants et il voulait leur donner quelque chose d'un petit peu plus tangible, un petit peu plus beau. Alors, il m'a approché pour écrire, dans le fond, qu'est-ce que lui enseignait. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, Première Ligne a embarqué et c'est devenu un petit peu plus gros là avec un livre qui est maintenant disponible dans les librairies.
Et l'apprentissage se fait à travers justement une BD. C'est un peu comme si Victor Brideau donnait ludiquement son cours donc dans le volume.
Oui, ben on voulait éviter que ça soit très aride là, comme apprentissage. Donc, on a décidé de faire ça avec des blagues, des dessins amusants. Donc, ça s'adresse à des jeunes. On voulait pas les perdre en partant. Et vu que c'est des gens qui sont dans ses cours à lui, il s'est mis en vedette justement pour qu'il ait créé un lien avec les lecteurs.
Et le défi, évidemment, c'est de trouver... quoi enseigner, comment l'enseigner, à qui l'enseigner aussi. Peut-être commençons par le « à qui ». Est-ce que c'est à toute gens qui veulent se lancer en BD ou est-ce qu'on s'adresse peut-être un peu plus à un public jeune?
Initialement, on l'a conçu pour, des 9-12, mais dernièrement, il y a une école secondaire qui se l'est procurée pour l'enseigner aux gens de secondaire 1. Donc là, on embarque dans le 13 ans. Et même que dans un salon du livre, il y a un adulte là, passé la cinquantaine qui adorait la bande dessinée, qui en a acheté un pour lui-même. Donc, on dépasse un petit peu les limites qu'on s'est imposées, là, mais ça s'adresse, je dirais, aux 9-12 ans en premier.
Et le défi, évidemment, c'est de leur montrer à faire de la bande dessinée. Première observation que j'avais eue face au livre, on enseigne la structure du récit, c'est pas le dessin, justement, c'est pas les trucs de dessin qui sont donnés dans ta BD en 9 étapes.
Non, en fait, le dessin, il arrive à la 4e étape. On s'est vraiment dit, moi, ma formation, je suis scénariste. Et Victor, lui, m'a toujours dit, quand on s'est rencontrés, qu'un mauvais scénario serait jamais sauvé par un bon dessin, mais qu'un mauvais dessin pouvait être sauvé par un bon scénario. Alors, les deux, on a une approche très axée sur l'histoire en premier. Et c'est pour ça qu'on l'aborde de cette façon-là. Évidemment, c'est pas nécessairement tout le monde qui va être d'accord avec nous, mais c'est la façon qu'on a décidé de l'approcher en donnant le plus d'importance possible à l'histoire.
Ben pour bien la développer, dans le fond, si on a seulement le côté graphique, nécessairement il va manquer quelque chose, comme tu disais. Donc, il s'agit d'amener le jeune, le BDiste en herbe, à bien comprendre, dans le fond, ce qu'il va avoir à illustrer, ce qu'il va avoir à présenter.
Oui, exactement, parce qu'on sait qu'une bande dessinée, c'est plus que seulement des dessins qui sont mis un à côté de l'autre. Il y a toute une structure narrative, autant dans les dialogues que dans ce qu'on voit en dessin, donc c'est ça qu'on voulait mettre à l'avant-plan avant toute autre chose.
Et par ailleurs aussi, à l'intérieur du livre, il y a un moment où vous dites, ben regardez, il y a différents types de dessins aussi, certains niveaux, degrés de dessin, donc vous amenez un peu le futur auteur à prendre conscience de ce qu'il est capable de faire aussi.
Oui, absolument, c'est ça. C'est la bande dessinée, je pense que juste en se promenant dans une librairie, on voit qu'il y a plusieurs styles, plusieurs niveaux, même pour les professionnels. Donc, vu que nous, on s'adressait à des jeunes, puis déjà que c'est assez complexe faire une bande dessinée, même si on a tenté de simplifier le plus possible, on s'est dit, on va pas les décourager. S'il y en a qui se trouvent moins bons que d'autres en dessin, on va quand même les encourager à poursuivre, parce que dans le fond, c'est qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec leur talent qui va avoir une importance et non pas leur talent comme tel.
Et d'ailleurs, côté dessin, comme tu le disais, ça arrive à la quatrième étape. Les trois premières, c'est vraiment, dans le fond, l'exploration de l'idée, le développement, dans le fond, de cette idée-là.
Oui, c'est ça. Ça va être trouver l'idée, ensuite faire un petit synopsis, donc ce qu'on veut raconter avec cette idée-là, et le scénario qui va être plus en profondeur, l'histoire qu'on va raconter.
Et Jean-Marc Pacelli, là-dedans aussi, le livre offre un accompagnement, offre un espace d'expérimentation.
Ouais, à chaque étape, là, au moins un exercice. Il y en a qui en a plusieurs. Par exemple, l'étape 4, il y en a plus qu'un. Mais c'est vraiment, vu que c'était inspiré du cours de Victor, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait des exercices pour pas juste enseigner quelque chose et ensuite laisser les jeunes se débrouiller ça. Donc, au moins en leur donnant des exemples à suivre et des exercices, on s'est dit qu'on peut au moins leur donner un petit coup de pouce supplémentaire.
Effectivement, et surtout dans la logique où, à mon sens, et de ce que j'en ai compris également dans ta BD en 9 étapes, la bande dessinée, c'est de la pratique, c'est de la patience.
Oui, c'est beaucoup de pratique, c'est surtout de la patience, parce que je pense que tous ceux qui en ont fait savent que c'est un travail très solitaire. Moi, j'ai de la chance de travailler avec un illustrateur, donc on se parle, mais il y en a qui font ça, dessin et scénario au sol, donc eux, ils passent plus de temps, puis jamais chez eux, je pense.
Et côté travail, quand on arrive au dessin, l'idée non plus, de ce que j'en ai compris dans ta BD en 9 étapes, c'est pas de se lancer immédiatement dans les cases. Il y a tout un travail aussi à faire avant même de commencer à s'intéresser, à commencer à jouer avec les cases.
Oui, ben c'est ça. Il faut comprendre pourquoi on structure l'histoire, pourquoi on va mettre 4 cases dans une page au lieu de 6 ou vice-versa. Pourquoi qu'on va en faire des plus larges et des plus longues, parce qu'une bande dessinée, c'est la plupart du temps, c'est très malléable. On peut faire ce qu'on veut pratiquement avec ça. Il n'y a aucune limite. On peut faire aucune case. On peut faire plusieurs cases. Donc, on s'est attardé là-dessus là, pour que les gens y comprennent que on pouvait tout faire, mais il fallait savoir pourquoi on le faisait surtout.
Ça, l'idée de mise en scène, dans le fond, qui est assez présente là, dans la méthode, dans l'approche que vous proposez.
Oui, exactement. C'est vraiment... Comme je disais un peu plus tôt, c'est qu'est-ce qui va venir appuyer l'histoire, parce que l'histoire, c'est ce qu'on raconte, mais il faut le médium, c'est la bande dessinée, donc on va s'en servir à son maximum.
Et d'ailleurs, les cases aussi, les étapes d'avant, enfin, je vais en filigrane, évidemment, tout ça est détaillé dans le livre, mais on cherche à donner peut-être une petite idée de ce qu'on va y retrouver, et notamment, vous amenez aussi les gens à dire, ben ok, les personnages, faut savoir comment les mettre en scène, faut les avoir explorés dans différentes situations aussi, avant de les ajouter aussi aux cases qu'on va avoir composées.
Oui, exactement. C'est l'époque des hiéroglyphes est terminée, là, les petits bonhommes de côté. Maintenant, il faut être capable de faire des personnages de tous les angles, tous les côtés, du 360 degrés. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes, quand ils vont faire le livre, quand ils vont faire la bande dessinée, ils vont pouvoir justement pas être limités. Ils vont s'être pratiqués avant ils vont connaître leurs personnages à fond de tout temps, tout côté, les expressions différentes, qu'ils soient heureux, tristes, en action, au repos. Donc c'est vraiment, on essaie de leur montrer dans tous les détails possibles c'est quoi une bande dessinée, et pour qu'ils soient prêts justement d'en faire une première, mais leur première va être déjà très bonne.
Exactement. Dans le fond, l'idée d'avoir un récit qui est structuré, d'avoir des personnages sont d'explorer, donc d'en faire une vraie plutôt que d'essayer de commencer à en faire une, puis finalement s'arrêter après trois cases. Là. Donc là, de structurer en amont, puis comme je le disais, d'entrée de jeu, de prendre conscience de tout ce que ça implique, dans le fond, créer une BD.
Oui, exactement, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai essayé d'en faire et je me décourageais assez vite, justement, parce que je faisais 3-4 dessins, mais je savais pas où ça s'en allait, je savais pas comment structurer quoi que ce soit. Donc, je me dis qu'en offrant un petit outil qui aide la première bande dessinée, va déjà avoir un petit avantage sur les autres.
Et tout ça, c'est apprendre aussi comme une introduction, donc dans la mesure où si ensuite on a un jeune qui a envie de poursuivre, ben là, c'est d'aller explorer d'autres types de ressources, mais c'est un bon premier élément d'accompagnement, dans le fond?
Oui, c'est ça, c'est vraiment une introduction, c'est les 9 étapes de base et c'est un survol, donc même si c'est assez détaillé comme livre, c'est pas une brique de 500 pages, c'est au total, il y en a 48, donc on est vraiment allé à l'essentiel. On a essayé d'en mettre le plus possible dans ces 48 pages-là, mais évidemment, si la personne veut se développer encore plus et aller plus loin dans son art, ben, ça va être nécessaire là, de se procurer quelque chose qui va être plus détaillé.
Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant, justement, de livres d'introduction comme ça qui présentent la base, un peu un premier contact avec la création de BD. Il n'y en a pas tant que ça qui existe non plus.
À ma connaissance, j'en ai jamais vu. Ça veut pas dire nécessairement qu'il y en a pas, mais moi j'en ai pas vu personnellement, non.
Et ça a dû être un bon défi aussi, à partir des notes de cours, de réussir à bien synthétiser tout ça pour avoir un bon contenu, mais sans en rentrer avec suffisamment de détails, mais pas aller dans le trop peu comme dans le trop tout court, là.
Ouais, mais heureusement c'est ça. Je me suis assis avec Victor pour ça. Donc lui me disait qu'est-ce qu'il racontait. Point par point, étape par étape. Donc moi, ensuite, je prenais des notes et j'ai pu ensuite seul faire un genre de petite trame narrative là, pour qu'on fasse une bande dessinée à ce sujet-là. Mais oui, si j'avais été seul, essayer de simplifier ça le plus possible, ça aurait été un petit peu plus ardu. Donc au moins, j'ai eu un très bon coup de main là, à ce niveau-là.
Et donc, de ça, ce qu'on espère, c'est stimuler un peu l'intérêt des jeunes aussi face à la BD, à donner un outil additionnel pour aller les intéresser?
Oui, absolument. Nous, à Gatineau, on est assez choyés. On a même l'Université du Québec en Outaouais qui offre un diplôme en bande dessinée. Donc, ça peut inciter des jeunes à se lancer là-dedans, tant mieux.
Et de ce que j'en comprenais, il y a déjà un bon intérêt. S'il y a des écoles qui commencent à s'y intéresser, c'est signe qu'il y a un besoin, que les jeunes sont encore intéressés à apprendre comment se fait la BD.
Oui, absolument. C'est assez surprenant, même que, comme je disais, Victor, ça fait au moins depuis l'an 2000 qu'il donne des cours. Et lui, quand il a commencé ça, il s'attendait pas à avoir autant de jeunes encore 10 ans plus tard, même que je pense qu'il pensait pas être encore à donner des cours en 2012. Donc, c'est assez surprenant l'intérêt qui croît à chaque année.
Et donc, l'ouvrage, on peut le découvrir, ça s'appelle Ta BD en 9 étapes, donc, de Victor Brideau et Jean-Marc Pacelli. C'est disponible chez Première Ligne, notamment sur leur site, s'il n'est pas en librairie. Est-ce que ça sera une première de d'autres initiatives, soit plus en profondeur, soit d'autres explorations autour de la BD? Est-ce qu'on a d'autres projets du genre dans les cartes?
Pour l'instant, plus ou moins, mais on a quand même on en a discuté que si ça valait la peine, qu'il y avait une demande, qu'il y avait quand même d'autres choses à explorer. Mais pour l'instant, il n'y a pas nécessairement de plan d'aller plus loin.
Alors, on découvre donc votre méthode, vos étapes. Jean-Marc Pacelli, merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir.
À la prochaine.
Bonne soirée.
Alors voilà, donc Jean-Marc Pacelli, je le rappelle, auteur du volume Ta BD en 9 étapes aux côtés de Victor Brideau. We'll be right back. voilà, dernier petit extrait de la formation Format, de tiré de leur album Origins. C'était la pièce Amiga. Alors évidemment, vous aurez deviné les origines 8-bit de cette musique. Et parlant de musique, eh ben, c'est les liens entre l'univers musical et la bande dessinée qui vont être explorés lors des prochains rendez-vous de la BD, mercredi 9 mai à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et comme à l'habitude, il est de passage pour mettre la table un peu en route vers cette rencontre. Michel Giguère, bonjour.
Salut Raymond.
Alors, BD et musique, il y a des ponts à faire, il y en a beaucoup?
Non, en fait, il y en a beaucoup, mais il faut préciser ici, ça s'impose, qu'il y a quelques années, on a eu une rencontre autour des chansons adaptées, transposées en bande dessinée, qui font l'objet, depuis 10-15 ans, de toute une cohorte de recueils. Donc ça, on a déjà consacré une soirée à ça. Donc, il sera question d'autres choses, c'est-à-dire qu'à peu près depuis 10 ans aussi, il y a eu une recrudescence de biographies de musiciens et de chanteurs en bande dessinée. Donc, c'est plus de ça dont il sera question. Et quand on parle de musiciens-chanteurs, ben, il y en a qui sont renommés, il y en a qui sont méconnus, et il y en a qui sont carrément fictifs. Et qui, dans le fond, servent pour les auteurs de ces bandes dessinées-là, qui sont, on le sent, on le devine, qui sont des passionnés de musique, ben, ces personnages fictifs-là servent finalement d'archétype pour incarner tel plan de l'histoire de la musique, telle époque, tel genre. Ça devient comme des espèces de contenants qui vont devenir emblématiques de tout ce qui représente ce qu'on aime dans ce genre musical-là.
Et Michel, j'ai presque envie, quand on parle musique et BD, et présentation de genre musical à travers la BD, de faire un pont avec la discussion qu'on avait autour de la mise en scène en BD, parce que j'ai l'impression que là, quand on la lie à la musique, ben nécessairement, c'est toute la planche aussi, c'est toute la structure de cette BD-là qui va d'une manière ou d'une autre, peut-être, suivre le rythme qui est imposé par le créateur ou le style qu'on essaie de mettre en valeur.
Alors, peut-être que les bandes dessinées qui portent sur le jazz sont totalement improvisées.
Peut-être.
Ouais, je ne sais trop. Faudrait vraiment s'entretenir là-dessus avec les auteurs. Et oui, il y aurait sans doute un parallèle formel à faire. Oui, cela dit, ce qui ressort au-delà de la forme aussi, c'est le ton, c'est tout ce qui se dégage de ces récits-là. Et personnellement, pour être vraiment immergé dans la préparation de cette rencontre-là depuis 3 semaines maintenant, je dois dire que c'est assez curieux, assez inattendu et paradoxal, parce que moi, depuis tout petit, la bande dessinée, oui, mais j'allais dire la musique et la chanson sont au cœur de ma vie. C'est quelque chose qui m'apporte énormément de plaisir depuis la toute petite enfance et qui contribue à mon bonheur. Or, là, c'est assez déprimant finalement d'enligner un après l'autre toutes ces biographies-là de musiciens. Alors l'adage qui dit « sexe, drogue et rock'n'roll » peut s'appliquer au blues, au jazz et drogue, on peut changer ça par alcool aussi, là. Mais c'est beaucoup de destins brisés, de talents qui s'abîment dans le mal à l'être, dans les abus de drogue et d'alcool.
Ça se passe pas bien les carrières musicales. Là,
c'est hallucinant. Fait que à la longue, ça devient un peu lourd. Mais là, la soirée de mercredi prochain ne durera que 1h30, 2h.
Et là-dedans, en fait, ce serait quoi un peu les œuvres incontournables, justement, des exemples de ces planches, de ces auteurs que tu explores pour faire ces ponts là, entre musique et BD?
Ben, je vais pas trop en révéler, mais il est ressorti de toutes ces lectures-là, parce qu'il y en a beaucoup, qu'il y a des duos et par ailleurs des BDistes là, en solo qui émergent. D'abord, il y a Munoz et Sam Payot, qui sont vraisemblablement des maniaques de musique et qui ont réalisé quelques albums qui tournent autour de ça. Il y a surtout deux coups de cœur de toute ma préparation, le Franz Duchazeau, qui lui s'est attardé beaucoup aux racines du blues, et aussi un dénommé Van Littout, ou Littout, je sais pas comment le prononcer, c'est un nom vraisemblablement le néerlandais. Et dans les deux cas, c'est un dessin en noir et blanc, C'est pour ce qui est de Van Lintout, c'est aussi dans le cadre de la musique blues au tournant des années 20, 30, tout ça, 40. Et Chazot, lui, il a un trait très charbonneux là, avec, j'imagine que c'est un dessin rehaussé au pastel. Van Lintout, il y a des magnifiques lavis gris. En tout cas, bref, c'est en noir et blanc comme on s'imagine les années 20 et 30, effectivement. Là. Et puis, ma foi, leurs albums, ça forme une espèce de gros tout là. D'ailleurs, ils vont être regroupés dans la présentation là. Et puis on va passer un bon moment dans les racines de cette musique là qui non seulement qui existe encore aujourd'hui sous forme de blues, mais qui a finalement après diverses mutations donné naissance au jazz, au rock, puis pas mal tout ce qui est musique pop d'aujourd'hui. Là.
Et est-ce que globalement, la BD s'est beaucoup intéressée à la musique? Est-ce que tu as l'impression que c'est, je veux dire, que tu avais l'embarras du choix ou au contraire qu'à un moment donné, ta sélection a fini par être limitée? Ouais.
Ben, la sélection n'était pas limitée. D'ailleurs, je peux peut-être révéler que ça va faire l'objet de deux soirées.
Là. Ok, donc il y a du stock.
Ouais, il y aura une deuxième partie l'an prochain. Là. Il y a beaucoup trop de stock. Et ça ne me tente pas de me dépêcher non plus. Et puis, ce qui est frappant finalement, c'est que oui, j'avais l'embarras du choix, mais l'écrasante majorité des œuvres présentées sont récentes, assez récentes. Donc, c'est dire que dans les années 80-90, puis encore moins avant, il s'en faisait pas tant que ça. C'est deux univers qui ont mis du temps à fusionner. Et pourtant, je sais que c'est pas d'hier que les BDistes aiment la musique et s'y intéressent. Entre autres, il y a plusieurs dessinateurs qui étaient liés au magazine Rock and Folk. On sait que Edgar P. Jacobs, qui a créé Blake et Mortimer, est un fou d'opéra et qui aurait aimé faire carrière là-dedans. Donc, j'ai par ailleurs, ça va un petit peu introduire la soirée mercredi prochain, j'ai une liste de plusieurs dizaines de noms de BDistes qui font de la musique dans leur temps libre, en plus de faire de la BD. Donc, c'est comme si ces deux arts qui vont... qui génèrent une même passion chez plein de gens, là.
Oui, puis en même temps, est-ce que c'est l'idée, en fait, du côté récent, est-ce que c'est parce qu'aussi la BD se permet d'être un peu plus éclatée aujourd'hui qu'elle ne se le permettait dans les années 70-80, donc ouais. C'est un peu dans la continuité, puis dans l'esprit de métissage aussi qu'on trouve de plus en plus dans tous les arts, donc c'est peut-être une espèce de continuité, au bout du compte, d'évolution normale, entre guillemets. On philosophe, là.
Ouais, ben on philosophe. C'est pas inintéressant ce que tu dis, mais moi je suis porté à toujours apporter des bémols au fait que la BD serait plus éclatée aujourd'hui qu'elle ne l'était avant.
Ouais, parce que j'avoue qu'il y avait de l'expérimentation qui se faisait assez proactivement à l'époque. Là.
Ouais, Winsor McCay là, au début du siècle, et puis Harriman avec Crazy Cat, on n'a pas fait beaucoup plus sauter que ça depuis. Là. Mais peut-être qu'il faut chercher aussi du côté du passage du temps. C'est qu'à un moment donné, ça prend du recul pour avoir envie de se pencher sur quelque chose. Et puis, il y a plein de grands noms de la musique. Oh, en fait, je veux dire, Billie Holiday, pourquoi personne n'a fait une BD sur Billie Holiday dans les années 50? C'est peut-être moi aussi qui ne l'ai pas trouvé. Faut dire par ailleurs que moi, je travaille à partir de la collection dans le réseau des bibliothèques à Québec, parce que les rencontres, c'est aussi une mise en valeur de nos collections. Et il y a peut-être un tas de bandes dessinées qui ont paru en anglais, qui n'ont pas été traduites et qui parlaient des grands noms du jazz, notamment. Bon. En tout cas, on verra. Mais je voudrais pas qu'on se quitte sans préciser quelque chose. C'est qu'en cours de préparation, il y a quelque chose qui s'est imposé. Et puis, j'avais beau passer parce qu'il n'y a pas que le blues et le jazz, là. Il y a la musique klezmer, la musique rebetiko qui est originaire, qui a été importée de l'Anatolie, de la Turquie par des musiciens grecs, là. Il y a le jazz manouche, le tango. Bon, on va toucher un petit peu à tout ça. Il y a la chanson francophone qui, étonnamment, est sous-représentée. Je dis étonnamment parce que la grosse majorité des créateurs dont il sera question, ceux qui ont fait les BD, sont des francophones. Et finalement, j'ai l'avis de Brassens et l'avis de Boris Vian, et puis pas grand-chose d'autre. Cela dit, peu importe là que ce soit Brassens ou Jimi Hendrix, ça s'est imposé. On n'est pas pour regarder des planches projetées sur écran qui vont montrer tel moment clé de la carrière et ou de la vie de machin sans écouter sa musique. T'sais, on les voit, j'ai priorisé beaucoup des scènes où on les voit jouer la musique en studio ou en spectacle sur scène ou dans des cabarets, etc. ou sur le bord de la rue. T'sais. Mais là, je me suis dit, mais non, mais il faut les entendre. Fait que donc, ça va être son et lumière. Et là, j'en ai par-dessus la tête. J'ai interrompu ça pour venir ici, puis j'ai retourné immédiatement après dans l'entrevue. C'est parce que la préparation musicale qui s'ajoute à la préparation des images. Là. Fait que ça va, c'est ça. On va écouter de la musique mercredi soir.
Et justement, l'idée, j'ai l'impression que ça va passer aussi par l'écoute, l'observation, et de voir si effectivement il y a une adéquation entre les deux. Il y a cet élément de mise en scène, dans le fond, qui réussit à faire comprendre la musique, ou est-ce qu'on puisse, nous, spectateurs, dans le fond, faire le pont entre les deux, faire le pont que tu nous proposes?
Tout à fait. Et quand tu dis faire le pont, je prends le pari qu'on va faire le pont sans trop appuyer, sans trop souligner et surligner. Bref, je vais essayer d'être peut-être moins bavard que d'habitude. C'est un petit peu ça l'idée d'avoir de la musique, là. Et faut dire que le mois dernier, en plus du rendez-vous de la BD habituelle, on a reçu Cromwell. On a profité de son passage, du fait qu'il s'est attardé à Québec après la fin des festivités autour du festival de la BD, etc. Et puis on s'est fait un deuxième mercredi consécutif, deux semaines de suite. Et on a fait porter la rencontre sur son dernier album, Point à la ligne. Et puis, on est allé image par image, une image à la fois projetée sur écran, et on a parlé que d'une œuvre dans toute la soirée. Puis ça, c'était la première fois.
C'est comme un commentaire DVD d'un film, au bout du compte?
Ouais, peut-être, mais en fait, c'était un pari. On a peur du vide, hein? On a peur que ça soit trop lent. Puis là, on laisse, avec les gens dans la salle, au diapason des gens dans la salle, on pénétrait au cœur des images qui étaient projetées. Et puis, comme m'a dit Cromwell après coup, il y avait des silences, et c'était merveilleux d'être toute une salle comme ça et d'être très à l'aise avec ces silences-là. Alors là, mercredi prochain, ce sera pas du silence, mais on va se permettre de pas tout analyser. Et justement, je mise sur le fait que les gens vont voir l'efficacité de la mise en scène, des scènes qu'on va voir à l'écran, qui vont tenir sur deux planches. Généralement, c'est toujours deux planches à la fois. Et est-ce que c'est vraiment en symbiose avec l'atmosphère musicale et avec tout ce que vivent ces musiciens-là de dilemme et de mal à l'être, comme je disais tantôt, là. Donc, c'est ça. On va s'essayer bercer un petit peu et bousculer par tout ça.
Alors, ce sera à découvrir, donc une rencontre hors norme, pourrait-on dire, et une occasion donc de découvrir ces liens-là, ces ponts-là, et de les expérimenter aussi, parce que dans le fond, de ce que j'en comprends, il y a une part d'expérimentation, d'observation active.
La manière que tu dis ça, là, je me vois à l'entrée puis offrir un petit joint à tout le monde, mais ça sera pas le cas.
Non. C'était pas l'image que je voulais lancer non plus.
Et les gens vont être déçus.
Michel Giguère, merci beaucoup.
Merci.
Et je rappelle, donc c'est mercredi prochain, le 9 mai, donc à compter de 19h à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Évidemment, c'est entrée libre, c'est gratuit, donc tout le monde est convié et invité. Et ben nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve évidemment mercredi prochain avec un gros regard, notamment sur le Salon Nouveau Genre, rencontre avec des créateurs de fanzines qui lorgnent un peu du côté des arts visuels. Alors, ce sera notre rendez-vous donc vendredi prochain à compter de 17h30. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et dans quelques instants, l'équipe de 100% Dynamite.